7h41, les matins, à la ferme. Aujourd'hui, on vous retrouve, Guillaume Erner.
Oui, Camille Magnard, absolument, à la ferme du Bec et Loing. Le Bec, c'est tout simplement une rivière et je suis sur le pont qui enjambe cette rivière. Alors, imaginez une vallée extrêmement verte. Ça ressemble un peu à la Comté. Vous savez, ce pays imaginaire chez Tolkien, avec beaucoup de petits monts, avec énormément de plantations, de cultures. Et c'est cette ferme du Bec et Loing. Elle a été fondée en 2003 par Charles et Perrine Hervé Gruyer, avec qui je suis. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Guillaume.
Comment avez-vous trouvé ce lieu, Charles ?
En fait, j'y viens depuis que je suis tout petit, parce que ma famille maternelle était normande. Et j'ai toujours aimé la paix, la sérénité qui règne dans cet espace préservé.
À l'époque, est-ce que cette ferme qui aujourd'hui, je crois, rassemble 20 hectares avec des petits lieux de culture et notamment du maraîchage, je vois de la paille avec des cultures en butte dont on va parler. Est-ce que à l'époque, c'était déjà un lieu qui était aussi fertile ?
Alors non, en fait, quand nous avons repris cet endroit, c'était un simple herbage, comme on le voit beaucoup dans la vallée, avec de magnifiques vaches, mais il n'y avait bien évidemment aucune culture, et on a appris après que personne ne cultivait dans les fonds de vallée, et cela depuis le Moyen-Âge. Donc, un peu comme des fous néophytes, il nous a pris l'idée de faire du maraîchage dans un lieu qu'il n'en avait jamais vu, et il a fallu créer tout un écosystème que, petit à petit, nous avons vu s'épanouir de façon absolument merveilleuse.
Alors, la première des choses que l'on voit lorsqu'on est ici dans cette ferme du Bec et Loing, ce sont des bâtiments qui sont extrêmement traditionnels en bois, que vous avez construits avec vos mains d'ailleurs, Charles.
Oui, on coupe les arbres dans la forêt, on façonne les charpentes à la hache, et on taille des bardeaux pour la couverture et on s'amuse beaucoup.
Et puis, on a affaire à des engins agricoles. Alors, j'en ai deux en face des yeux. Ce sont des engins un peu particuliers qui diffèrent quand même très largement des gros tracteurs qu'on a l'habitude de voir dans les exploitations agricoles.
Absolument, ce sont des outils qui sont tractés par un cheval de trait. En fait, notre rêve, c'est d'essayer d'imaginer une agriculture qui se passe de pétrole, qui fonctionne avec le soleil. Et depuis la création de la ferme, on travaille avec un cheval de trait.
Un cheval de trait, ça veut dire que, par exemple, cet objet que j'ai en face de moi, alors il a effectivement la possibilité d'être tracté par un cheval, et il y a des espèces de petits cylindres qui s'enfoncent dans la terre. À quoi il sert ?
Eh bien, il sert à faire des petites buttes de terre qu'on appelle des billons, sur lesquels on plante nos légumes. En fait, ce sont des outils très modernes. Ce qu'on pratique ici s'ancre dans la tradition, mais également dans la modernité. C'est pas un retour à la ferme de grand-papa. Et donc, on a les outils les plus modernes de traction animale et qui sont très efficaces et très polyvalents.
Oui, c'est probablement la spécificité d'ailleurs de cette ferme, la possibilité donc de créer un lieu quasiment autarcique, en tout cas c'est vers cela que vous tendez, avec à la fois des techniques qui sont des techniques extrêmement modernes et qui pour autant évidemment laissent de côté tout ce qui relève de l'agriculture extensive, de l'utilisation d'herbicides, pesticides, Perrine.
Alors oui, tous ces aspects, on va dire, néfastes de l'agriculture dite moderne, nous les avons zappés, si je puis m'exprimer ainsi, parce que il nous fallait absolument nous reconnecter à quelque chose de productif, mais de vivant, et qui protège l'environnement. En fait, c'était presque notre première ambition, c'était de préserver l'environnement. Et la culture est venue s'intégrer dans ces écosystèmes que nous avons recréés. Mais le but premier, c'était vraiment de préserver, voire même d'améliorer l'environnement. Donc, entre le visage qu'avait cet endroit quand nous l'avons repris et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et on peut dire qu'en une dizaine d'années, eh bien, nous avons recréé un écosystème extrêmement riche au sein duquel nous produisons, et pour le coup, de façon très intensive. Et pour nous, ce mot intensif n'est pas du tout un gros mot. Bien au contraire, parce que cette productivité, on la doit à l'efficacité de la nature, l'efficacité des services écosystémiques qui sont rendus par tout ce qu'on a mis en place.
Alors là, je me trouve sur ce que vous appelez l'île jardin. Il faut imaginer donc un paysage assez marécageux. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il s'agit d'une île. Et là, j'ai un lieu qui est consacré au maraîchage avec une technique que vous avez inventée, réinventée. Vous allez qualifier ça vous-même, Charles. C'est de la culture sur but. Comment ça se présente? Qu'est-ce que je vois là? On s'approche de culture. On va aller vers des pois. Voilà. On a à la fois des pois et ceci, qu'est-ce comme culture?
Alors là, on a une butte effectivement permanente avec des pois à rame qui vont grimper au centre sur ce filet. Et au pied, ce sont des séries branches. On fait tout à la main ici. La technique de culture sur des buttes de terre permanente, elle est vieille comme le monde. Elle a été attestée depuis au moins 4000 ans dans les pays du Sud. Et nous, on l'a reprise parce qu'elle offre énormément d'avantages. Le fait de faire tout à la main nous permet d'associer les cultures, de les densifier, de prendre un soin extrême du sol. Et du coup, on peut réellement créer du sol. Notre sol stocke beaucoup de carbone. Et l'intérêt de cette approche, c'est qu'on peut à la fois produire beaucoup sur peu d'espace, sans pétrole, sans machinisme, et dans le même temps améliorer la fertilité des sols.
Voilà, donc on a affaire à un jardin qui mesure quelques dizaines de mètres carrés, avec donc une butte centrale. Sur cette butte, on a des cultures, on a de la paille. Comment ça se passe, cette culture-là, Périne?
Eh bien, en fait, on a recomposé un sol qui va être complètement adapté à ce que l'on demande, c'est-à-dire à produire intensivement des légumes sur ces fameuses buttes. Et cette technique de culture sur butte, elle est ancestrale, hein, nous n'avons rien inventé. Mais il nous fallait absolument, dans ce fond de vallée qui présentait une terre très peu hospitalière pour les cultures, il nous fallait recréer un sol très riche comme l'aiment les légumes. Donc ça nous a permis de faire cela, ça nous a permis de cultiver à l'image de la nature. En fait, dans la nature, le sol n'est jamais à nu, donc c'est pour ça qu'on a cette paille, comme vous dites, qui couvre les buttes de culture. On voit pas un pet de sol, si je puis dire, hein. Regardez, la paille couvre, si ce n'est la paille, ce sont ce qu'on appelle les adventices, en d'autres mots, les mauvaises herbes qui ne sont pas chez nous des ennemis. Au contraire, c'est une ressource qui vient nous aider à couvrir le sol, le paillé, comme le sol dans la nature.
Ça fait donc 16 ans que vous exploitez ce lieu. Je crois que les débuts n'ont pas été extrêmement simples, Charles.
Ni Périne ni moi ne sommes originaires du monde agricole, on est des citadins à la base. Et on a démarré avec une naïveté absolue. Notre rêve était même pas de produire beaucoup, notre rêve c'était de vivre dans une harmonie la plus profonde possible avec la nature. Et les difficultés des premières années nous ont menés à chercher, et beaucoup grâce à Internet, grâce aux bouquins notamment anglo-saxon, on a pu découvrir des techniques d'agriculture naturelle, on a pu rencontrer la permaculture également, et on s'est nourri de tout ça, ce qui fait que la ferme est devenue au fil des ans une sorte de petit laboratoire à ciel ouvert, où on teste tout ce qui nous semble pertinent.
Qu'est-ce que l'on cultive ici dans ce lieu, donc qui est une île, puisqu'il est entouré d'un marais où je vois à la fois des fleurs, je vois des carottes, je vois quoi d'autre d'ailleurs?
Eh bien, on peut voir des fenouilles, on a des chouraves là-bas, une magnifique sauge qui est en fleurs en ce moment. Alors les fleurs de sauge, cela embaume, c'est absolument merveilleux, puis c'est d'un très joli violet, c'est comestible, hein, donc on peut se régaler de ça. On a des salades, bien évidemment, cette saison, on a encore quelques navets. On a des haricots qui montent déjà, des betteraves bien sûr, des poireaux là-bas, des petits pois à d'autres endroits. Donc il y a une multitude en fait de cultures qui vont cohabiter les unes avec les autres, se rendre des services d'une certaine façon, attirer ou repousser différents insectes qui vont être des prédateurs pour les uns, des pollinisateurs pour les autres. Donc toute cette diversité en fait fait de ce lieu un espèce de foisonnement de vie, qu'il s'agisse de la faune ou de la flore.
C'est un lieu qui est extrêmement beau, c'est très joli à voir. On a l'impression que chaque détail est pensé et léché. Ça rappelle sous une autre forme les jardins japonais. Je crois, Périne, que vous êtes inspirée d'ailleurs des jardins japonais.
Alors, peut-être pas tant des jardins, mais d'une certaine philosophie et d'une approche du sol, de la terre et de la culture. Oui, parce que moi, j'ai vécu au Japon et ce pays reste très cher dans mon cœur. Et cette philosophie, cette approche de la vie, ce respect, j'allais dire, de la nature, de la vie et de chaque chose à sa place. Et en permaculture, il y a un principe qui nous a beaucoup inspiré, qui est chaque élément du système a plusieurs fonctions et chaque fonction du système est remplie par plusieurs éléments. Et je trouve que dans la philosophie de vie japonaise, il y a un petit peu de cela. Il y a une précision absolument méticuleuse apportée à tout, à chaque interaction que l'on peut mettre en place ici notamment.
Quelles sont les interactions, par exemple, qu'on peut observer? Pourquoi avez-vous choisi de mettre ces cultures à cet endroit-là, Charles?
On contrôle pas tout, quelque part. Il y a une part de raison et une part d'intuition qui est forte. Mais ce qui est intéressant, c'est l'aménagement, la manière dont l'espace est pensé grâce au concept de la permaculture. On est sur une île entourée d'eau, abritée des vents dominants par une forêt-jardin. On a des animaux, des prés-vergers qui nous entourent. Ce qui fait qu'on a recréé un milieu complexe parce que la nature va toujours vers davantage de complexité. Et cette complexité nous rend tout un tas de services. On bénéficie de beaucoup de sources de matière organique pour couvrir nos buts, des roseaux, des orties, la taille des arbres fruitiers, les restes de culture. On a beaucoup d'auxiliaires utiles qui protègent nos cultures. Vous entendez autour de nous beaucoup d'oiseaux. Il y a les grenouilles, les crapauds que la mare abrite, des couleuvres, des hérissons, etc. Ce qui fait que même si notre paysage construit est complexe, en fait, il nous facilite la vie parce qu'il y a tout un tas de fonctions importantes qui s'opèrent naturellement.
Et le fait d'avoir non pas une culture, puisque en fait l'un des principes de votre maraîchage, c'est bien entendu d'être au plus éloigné de la monoculture. Est-ce que ça n'est pas finalement un casse-tête ? Est-ce que ça ne serait pas plus simple d'avoir uniquement des radis, uniquement des carottes, Perrine ?
C'est un casse-tête, mais il est passionnant. Au quotidien, je crois que moi, je m'ennuierais personnellement si j'étais dans la simplicité de la monoculture. Et puis, cette monoculture, elle n'a rien de naturel. Si on regarde ce qui se passe dans les milieux autour de nous, quels qu'ils soient, aussi pauvres soient-ils ou monoculture soient-ils, on n'a pas cette implantation d'une seule culture. Il y a toujours des interactions, toujours des choses qui vont s'associer. Et nous, pour le coup, pour ce qui est du maraîchage, nous sommes beaucoup inspirés des maraîchers parisiens du 19e siècle, qui était quand même une référence au niveau technique. Et l'association de culture, il l'a pratiquée comme vous et moi mettons nos chaussures, si je puis dire, parce que c'était tellement évident pour eux, cette complémentarité entre les différentes plantes que l'on va installer, et encore une fois, ce foisonnement qui va faire que l'écosystème est riche et d'une certaine façon, il s'auto-équilibre.
Il s'auto-équilibre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les engrais, les intrants, les herbicides, les pesticides, donc bien entendu ici vous n'en utilisez pas du tout, comment faites-vous pour défendre vos cultures à la fois des mauvaises herbes et aussi des différentes bestioles qui les menacent, Charles ?
En fait, quelque part, c'est les fondamentaux même de cette approche qui sont différents de l'agriculture dominante, dans ce sens que on cherche pas à défendre quoi que ce soit, on cherche plutôt à favoriser la vie, à aller dans le sens du mouvement de la vie. Donc on cherche constamment à comprendre comment fonctionne la nature pour l'imiter et créer les meilleures conditions possibles pour que nos cultures s'épanouissent. Donc ça commence par un sol extrêmement sain, extrêmement vivant. Et les plantes sont comme nous. Si elles sont bien nourries, elles sont en bonne santé, elles sont capables de résister aux agresseurs. Et nous, on s'occupe pas tellement de l'aspect sanitaire du jardin, dans ce sens que ce n'est guère un problème. C'est ce milieu si complexe, si vivant, se protège de lui-même parce qu'il est sain et équilibré.
On va continuer à avancer un peu dans cette île jardin qui est donc située au bec et loin dans cette vallée normande. Nous sommes dans l'Eure, à quelques centaines de mètres de l'abbaye du Bec-et-Loin. Qu'est-ce qu'on voit ici, Perrine ?
Bien là, nous sommes devant un magnifique ensemble de consoudes.
Qu'est-ce que c'est ?
La consoude, c'est une plante.
Il y a un couteau.
Autochtone. Bah, Charles va nous en couper un petit peu pour nous montrer ce qu'il en est. C'est une plante absolument magique. On connaît beaucoup l'ortie au jardin, mais la consoude est sa petite sœur, on va dire, qui est un peu méconnue et qui est une superbe plante qui attire en cette saison les pollinisateurs. Vous voyez comme les bourdons autour des fleurs de consoude. Et c'est une plante qu'on peut consommer. On peut consommer la feuille, on peut consommer la fleur. Et surtout, elle apporte énormément de potasse. Donc, elle va nous aider au moment de la floraison des arbres fruitiers. Par exemple, on peut en faire un purin. On peut la déposer en paillage. Et ici, elle se plaît tout à fait naturellement puisque c'est une plante qui adore être proche de l'eau. Donc, naturellement, elle se pose au bord du bec et elle vient nous envahir gentiment. Mais nous sommes ravis de cette gentille envahisseuse parce que elle va nous permettre d'avoir un paillage naturel, gratuit, d'attirer les pollinisateurs, d'empêcher les autres éventuelles adventices qu'on voudrait moins voir de se répandre. Donc, elle a tout bon.
Ça veut dire que finalement, en fait, vous êtes moins dans une attitude défensive comme les monocultures traditionnelles, Charles ?
Oui, je dirais que la nature fonctionne très bien sans les êtres humains. Depuis des centaines de millions d'années, elle s'est merveilleusement créée du sol, créée de la biodiversité. Donc nous, notre approche, c'est de faire confiance dans la nature et de Si on a un problème, si on a une attaque de ravageurs, par exemple, on prend ça plutôt comme un signal du fait qu'il y a un déséquilibre dans notre jardin. Et on cherche à comprendre d'où vient ce déséquilibre. Donc plutôt que de tout pulvériser avec des produits chimiques qu'on s'interdit puisqu'on est en bio, eh ben on va plutôt chercher comment favoriser par exemple la présence d'un auxiliaire utile.
Un auxiliaire utile, alors il y a quand même des animaux dont vous avez du mal à vous débarrasser. Les limaces, vous faites comment ?
Les limaces sont notre plus gros problème parce que ce système de culture sur but qui est toujours paillé les favorise, ça leur donne quelque part le gîte et le couvert. Donc c'est un travail de fond. Les grenouilles, les crapauds, les scarabées les mangent. On a pas mal de canards, vous pouvez en apercevoir certains. Il y a les poules qui les mangent également. On en ramasse quand il y en a trop. Il y a les hérissons également. On en ramasse quand il y en a trop. Et du coup, les deux premières années, on avait vraiment du mal à avoir des salades et des choux corrects. Maintenant, il y a une sorte d'équilibre qui s'est instauré. Et voilà, on intervient très ponctuellement.
Alors, quand vous dites que vous intervenez très ponctuellement, il faut dire les choses, c'est une agriculture, c'est un maraîchage qui a forte intensité de main-d'œuvre. Ça veut dire que vous êtes tous les deux au travail de longues heures. Ça veut dire que finalement, vous avez remplacé les intrants, les herbicides, les pesticides par vos mains, en quelque sorte, Périne.
Oui et non. Je pense que cette agriculture que nous pratiquons, c'est beaucoup une agriculture de la connaissance. Donc, de l'observation, de la compréhension, de tout ce qui va pouvoir se passer dans le système. Donc, bien sûr, nous travaillons beaucoup. Bien sûr, c'est un métier difficile, mais on ne va pas remplacer les herbicides ou les pesticides par nos actions. On va complètement s'inscrire dans une démarche différente. On va essayer, encore une fois, de maintenir les équilibres, comme le disait Charles à l'instant, et de comprendre les clés d'une productivité dans un milieu naturel, tout simplement. Donc, il s'agit plutôt d'observer, de comprendre et de réagir par rapport à ce qu'on a observé, mais on a lâché l'histoire du contrôle de la nature. On n'est pas du tout dans le contrôle de quoi que ce soit. Je vois une maladie, donc je balance un produit chimique. C'est pas du tout ça. Je vois un déséquilibre, donc je vais essayer de mettre en place les choses qui vont recréer un équilibre.
Mais c'est un lieu qui est extrêmement pensé, c'est-à-dire que si je me tourne dans toutes les directions, dans ce jardin qui doit mesurer quoi, 300 mètres carrés?
À peu près, oui.
Eh bien, ce jardin et chaque centimètre carré, pratiquement, Charles, est utilisé.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'un des grands intérêts de cette approche, c'est que on produit énormément sur très peu d'espace. Donc, quelque part, on libère le reste du territoire et on libère pour d'autres usages, d'autres fonctions. En premier lieu, on a planté des arbres absolument partout. On a planté des milliers d'arbres fruitiers. Et puis, on a pu creuser ces mares. On a pu introduire des animaux, ce qui fait qu'on est dans un système qui associe des arbres, des cultures, des animaux, un milieu plus complexe, du coup ce qui favorise son équilibre. Et il y a même des espaces de nature sauvage. Donc à surface égale, on peut produire beaucoup plus avec une production plus diversifiée et laisser de l'espace pour la nature sauvage. Et les naturalistes sont surpris du nombre d'oiseaux, d'insectes, d'abeilles sauvages qui habitent ce territoire. Ce territoire accueille des espèces d'oiseaux rares et menacés qui nichent sur la ferme. Donc c'est également une sorte d'oasis de biodiversité du fait de toutes ces niches écologiques qui sont présentes.
Est-ce que ça se distingue des cultures qu'on trouve aux environs, Périne ?
Ça n'a absolument rien à voir, à tout niveau. Aussi bien en termes d'esthétique que de diversité, tout est très très différent parce qu'on va plutôt être dans l'image du jardin d'Éden, ce que nous disent souvent les gens quand ils viennent ici. Alors en toute humilité, on est bien loin de ça, mais on cherche à recréer de petits paysages vivriers, un petit peu ce qu'on pouvait connaître avant le remembrement, hein, finalement, avant cette fameuse révolution verte qui n'en a pas été une. Et c'est ça qu'on a essayé de faire ici.
Charles et Périne Hervé Gruyer, vous avez notamment publié « Vivre avec la terre » aux éditions Actes Sud. On va continuer d'évoquer cette ferme du Bec-et-Loing où je suis actuellement dans cette petite vallée normande avec le soleil qui s'est très largement levé sur les cultures. En attendant, il est 8h et je vous souhaite un excellent réveil. Les matins sur France Culture se poursuivent.
8h22 sur France Culture, reprenons la direction de la Normandie de l'heure. Vous l'entendez avec des oiseaux en présence de Guillaume Herner. Vous êtes ce matin en direct de la ferme du Bec et Loing, Guillaume Herner.
Et oui, Frédéric Saizé, effectivement, avec une information exclusive sur France Culture pour les matins, l'horloge du poulailler retarde car il est 8h21, mais sur ce poulailler qui est en face de moi, eh bien, il est indiqué quelques minutes de moins. Je suis à la ferme du Bec-et-Loing, entouré de poules, entouré de chiens, il y en a plusieurs, et de cultures maraîchères, avec cette ferme qui est une ferme pilote en matière de permaculture, un autre rapport à la nature. On cultive ici sans pétrole, sans engrais, sans pesticides, et on fait de l'agriculture intensive sur des buttes avec beaucoup de paille et avec cette serre dans laquelle nous entrons. Je suis en compagnie des fermiers Charles et Perrine Hervé Gruyer qui ont notamment publié Vivre avec la terre, et d'un ingénieur agronome qui a beaucoup travaillé sur cette exploitation, car dans cette exploitation on tente de marier des pratiques ancestrales et aussi des découvertes extrêmement contemporaine. François Léger, ingénieur agronome, docteur en écologie et enseignant chercheur en agroécologie à AgroParisTech. Mais tout d'abord, Perrine Hervé Gruyer, puisqu'on a entendu tous les deux le biais politique de Frédéric Saizé, vous avez été engagé en politique auprès d'Europe Écologie Les Verts. Quelle expérience et quels enseignements en avez-vous tiré?
Oui, c'est vrai, j'ai été élue de 2010 à 2016 en tant que conseillère régionale. Le conseil régional, je pensais que c'était une très bonne échelle parce qu'on a des budgets intéressants, on peut faire des choses un peu significatives. J'étais complètement néophyte en la matière, bien évidemment, issue de la société civile. C'était une expérience, j'allais dire, tout aussi enrichissante que chronophage et dévoreuse d'énergie, parce que autant j'ai vu qu'en travaillant les dossiers, en tant qu'élu, on pouvait faire avancer les choses, notamment la politique agricole régionale et la politique agricole nationale aussi, mais l'inertie du milieu politique a quand même été réel, et je constate aujourd'hui que la reprise du tout écologique ne se fait que dans les mots, encore une fois. Moi, j'aimerais qu'il y ait...
Vous aimeriez quoi, concrètement?
Concrètement, qu'il y ait des mesures très faciles et importantes à mettre en place rapidement. Typiquement, un maillage de petites fermes vivrières, ça c'est une des premières mesures que l'on pourrait mettre en place assez facilement, avec un soutien à la formation des jeunes porteurs de projets, un soutien à l'installation de ces entités vivrières, et puis après, sur le transport, bien évidemment, en France, on est verni, on a tout ce qu'il faut, on a un réseau ferré absolument génial qu'on est en train de sabrer, donc il faut vraiment remettre ces modes de transport au goût du jour. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire véritablement dans l'immédiat plutôt que d'en parler. Il faut agir vite, on le sait tous.
Et oui, puisque d'ailleurs on est dans une exploitation qui, bien entendu, utilise les règles de l'agriculture écologique. Est-ce que vous touchez des aides, Charles Hervé Gruyer?
En tant que petit maraîcher bio, on a un crédit d'impôt de 2 500 € par an. C'est tout ce qu'on a pour une ferme qui emploie plusieurs personnes.
Donc ces aides sont bien entendu considérées comme insuffisantes. Elles sont insuffisantes alors même que cette exploitation, on va le voir, elle pourrait être reproduite. Elle est aujourd'hui rentable.
Oui, tout à fait. On a une véritable activité de production maraîchère toute l'année. On y tient beaucoup. On tient absolument à la conserver, même si on a également une activité de formation et de recherche scientifique.
Quelle est la spécificité de cette serre? Alors donc on est dans une large serre, il y a un poêle qui est un poêle à bois. Bon, comme il fait chaud actuellement en Normandie, la serre est ouverte. Qu'est-ce qu'on y cultive autour de ce poulailler, puisque le poulailler est dans la serre?
C'est une serre qu'on a rendue bioclimatique et on a cherché à renaturer cette espèce de grande bulle de plastique. Donc il y a des plantes pérennes qui sont des vignes, on a des agrumes, on a un figuier au-dessus de nous, des bananiers. On y a introduit des animaux, il y a un poulailler, il y a trois mâts, il y a des fleurs aussi pour favoriser la biodiversité. Il y a attiré les pollinisateurs. Et puis, il y a tout un ensemble de cultures que je vais laisser Perrine vous décrire parce que c'est elle qui en est en charge.
En ce moment, on a bien évidemment les cultures estivales. Donc, on a des tomates, on a des courgettes, on a des concombres qui commencent à donner, des aubergines, des poivrons. Et puis, systématiquement, on va retrouver ce principe qui est essentiel pour nous dans ce grand écosystème. Ce sont les associations de cultures. On va jamais avoir une planche de culture avec uniquement de la tomate, par exemple. On va avoir de la tomate associée à du basilic, de la tomate associée avec des oignons. Pourquoi pas même des salades, tant que les plantes tomates nous laissent suffisamment de lumière. Donc c'est toujours ces principes qui sont appliqués, même dans un milieu, j'allais dire, aussi artificiel qu'une serre, qui est quand même nécessaire ici en Normandie au vu de l'humidité ambiante. Mais même dans un milieu comme celui-là, on cherche à renaturer tous les processus de production.
François Léger, vous qui êtes ingénieur agronome, quel regard portez-vous sur cette exploitation? Qu'a-t-elle de pilote et quels sont les enseignements que vous en avez tirés?
Eh bien, le point essentiel pour moi, c'est ce qui a été dit avant le journal de 8 heures, c'est cette idée de faire avec la nature et de faire avec la diversité. Et c'est vrai que ce sont des questions qui aujourd'hui sont posées par rapport aux limites que semble atteindre le modèle agricole standard. Donc le BEC, pour moi, c'est un lieu particulièrement intéressant, et c'est encore un lieu d'autant plus intéressant que c'est à la fois un lieu de production, on l'a vu, mais c'est aussi un lieu d'expérimentation et de recherche. Il y a une volonté non seulement de produire des légumes, mais de produire des connaissances.
Alors, on va parler rendement, parce que donc ce que l'on voit autour de nous est très joli. Il y a énormément de cultures, des cultures qui sont faites sur des petites buttes. On a bien évidemment un souci esthétique véritable, mais est-ce que ça pourrait permettre à des fermiers de vivre?
Alors, le cas de la ferme... L'économie de la ferme du Bec est assez particulière, on l'a vu, mais moi je travaille aussi avec d'autres très petits maraîchers, travaillant des systèmes finalement inspirés par les mêmes idées. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'on va avoir des résultats économiques de ces petites, très petites fermes qui sont tout à fait honorables, mais qui sont extrêmement variables. Donc on a des cas de gens qui gagnent vraiment bien leur vie sur des très petites surfaces, et d'autres qui ont des conditions de vie plus difficiles, mais finalement...
Donnez-nous des chiffres, parce que finalement, le modèle qui est présent ici, c'est d'avoir remplacé le travail au tracteur, le travail mécanisé, par du travail humain, donc c'est une forte intensité de travail, avec donc des cultures intensives. Qu'est-ce que ça donne comme rendement, François Léger?
Alors, les rendements, c'est toujours très compliqué à calculer, mais grâce à la densification des cultures, c'est vrai qu'on peut avoir des rendements au mètre carré ici, pour chaque type de culture, qui sont largement supérieurs à ce qu'on a dans des systèmes plus mécanisés, où on est obligé de laisser plus de place à la machine.
Oui, bien entendu, mais d'un autre côté, un maraîchage sur 300 mètres carrés, c'est une surface qui est considérée comme étant une surface domestique, alors que ici, vous en obtenez des rendements qui peuvent être considérés comme des rendements professionnels.
Ah, on est au-delà des rendements professionnels habituels, hein, ça c'est clair. Effectivement, les surfaces étant petites, bah, vous multipliez la surface par le rendement et vous avez des chiffres qui sont finalement grosso modo comparables à des systèmes très mécanisés, mais avec un niveau d'investissement et de charge qui est beaucoup plus faible. Donc, l'intérêt pour des très petites fermes, c'est aussi de minimiser le niveau d'investissement.
Par exemple, dans cette serre, je vois des tomates. Charles, quelle quantité de tomates allez-vous récolter? Et lorsque vous envisagez, du point de vue économique, votre exploitation, comment réussissez-vous à tirer le meilleur parti de la surface, qui est encore une fois une surface extrêmement modeste?
Effectivement, on cherche à faire tout petit, mais extrêmement soigné et extrêmement intense. Par exemple, on fait jusqu'à 8 rotations de culture par an. Et les rendements moyens de la serre en 2014 étaient de 80 € de légumes produits du mètre carré. Je pense qu'on a bien monté depuis parce qu'on a perfectionné notre approche, rendu la serre bioclimatique. Donc ce sont réellement des rendements importants. Après, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a une vertu dans le fait d'être petit, parce qu'on a de moins en moins de désherbage, par exemple. Le sol s'améliore plus vite. On peut concentrer les soins, concentrer l'eau, concentrer les apports de compost. Et quelque part, on rentre dans une sorte de spirale vertueuse où le temps de travail diminue alors que les revenus augmentent.
La question de la richesse du sol, ça c'est une question importante pour l'ingénieur agronome que vous êtes, François Léger. On en a parlé d'ailleurs tout à l'heure aux informations, avec la fixation du carbone dans le sol. Vous avez étudié ce sol du Bec-et-Loing qui, à l'origine, était un sol assez ingrat puisqu'on ne cultivait pas dans les vallées. Qu'est-ce qui s'est passé depuis?
On pourrait dire que ici il y a eu une forme de création de sol, donc de fixation de carbone, parce que les sols, ce qui a été apporté, c'est essentiellement des matières organiques, qui va permettre sur un sol totalement inadapté aux cultures d'arriver à cultiver à peu près tout ce qu'on veut et avec des rendements tout à fait satisfaisants. Et ce travail de création des sols, de perfectionnement des mécanismes biologiques qui les rendent durablement fertiles, va être un des éléments essentiels de ce type de système.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Charles ?
Il y a une étude belge menée par l'université de Jean Blou a étudié la séquestration de carbone organique dans nos sols et a montré qu'on était jusqu'à 26 fois au-delà de l'objectif des 4 pour 1000 fixé par l'INRA, dont vous parliez tout à l'heure dans votre
journal. Pourquoi justement c'est important comme objectif? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Ça veut dire que le taux de carbone dans nos sols augmente jusqu'à plus 10% par an, ce qui est absolument énorme. Donc le carbone, il est soit dans l'atmosphère, soit dans nos sols, et ça veut dire que ces fermes sont véritablement un puits de carbone efficace. Et ce que je trouve très réjouissant, c'est qu'on arrive à concilier une productivité très élevée et en même temps une amélioration vraiment rapide des sols. Et je trouve ça porteur d'espoir pour l'avenir de l'humanité.
Bon, mais le problème, c'est que vous faites des cultures avec des rotations importantes des cultures, donc vous devez épuiser les sols parce que vous mettez des cultures très différentes qui ne cessent de se succéder dans le sol.
Au contraire, on laisse dans le sol les systèmes racinaires, on apporte beaucoup de matière organique, et du coup, on constate que nos sols sont de plus en plus vivants et de plus en plus riches en minéraux biodisponibles, accessibles aux végétaux, alors même qu'on n'utilise pas d'engrais minéraux.
Un ingénieur agronome comme vous, François Léger, comment observe-t-il les cultures traditionnelles, y compris de maraîchage, qui sont des monocultures ?
Le problème de la monoculture, c'est qu'en fait, on est dans des logiques d'artificialisation et dans lesquelles on va être toujours confronté, finalement, on va devoir s'affronter en permanence aux ravageurs des cultures et avec une espèce de guerre permanente dont le coût augmente au cours du temps. L'intérêt ici, c'est que la diversité, elle va en fait permettre au cours du temps, au contraire, une baisse des coûts. Le coût ici est d'abord un coût de travail. Et cette baisse progressive des coûts de travail, c'est la vertu de ces très petits systèmes très écologiques.
Et oui, parce que les ravageurs, ils vivent, pour ainsi dire, en symbiose avec une monoculture qui se poursuit sur des années, c'est ça?
C'est ça, oui. C'est-à-dire que, en fait, si vous avez tout enlevé et que vous n'avez plus que une plante et ses adversaires absolument directs, vous n'avez plus aucune interaction, on va dire, horizontale qui vont aider à contrôler ces ravageurs. Vous devez être dans le contrôle. Plus vous voulez contrôler, plus vous devez être dans le contrôle. Et c'est ça qui, au cours du temps, finit par condamner un système purement industriel et artificialisé de ce type.
Alors donc là, on se promène dans cette serre. Je vois de la lavande, Périne, il y a un bananier, il y a des tomates, et puis il y a de la vigne. Pourquoi avez-vous choisi ces différentes cultures ?
C'est assez simple parce qu'on va essayer dans notre système, y compris sous la serre, d'utiliser tous les espaces possibles. Et il y a un principe qu'on utilise beaucoup en permaculture qui est le principe de verticalité. C'est-à-dire qu'on va essayer d'attraper le moindre rayon du soleil partout où on le peut. Alors, on n'a pas de peine à comprendre que, par exemple, les tomates qui sont des tomates qui vont, bien sûr, les plantes vont pousser dans le sol, on va essayer de les faire grimper au maximum pour qu'au fur et à mesure de leur croissance, elles attrapent un maximum d'ensoleillement, elle soit bien balayée par l'aération pour éviter trop d'humidité dans nos serres, etc. Mais vous allez voir, systématiquement, vous n'allez pas trouver chez nous de culture uniquement au sol. On monte tant qu'on peut, ce qui fait que à différents niveaux, on est presque en 3D si vous voulez, à différents niveaux, on va trouver des couleurs, des feuillages, des fragrances différentes, et c'est ce qui va maintenir le côté très sain du système, c'est-à-dire qu'il y en a tellement partout, dans tous les sens, de toutes les couleurs, de toutes les formes, etc., de toutes les odeurs, que, mine de rien, l'équilibre va s'établir de lui-même.
Alors donc là, je vois de la tomate, c'est je crois de la noire de Crimée, cette tomate qu'on voit de plus en plus, qui est assez goûteuse, parce que l'un des intérêts de cette culture, c'est que d'ordinaire, dans les fruits ou dans les légumes, il y a de l'eau, de l'azote, c'est pas très...
Oui, on a perdu beaucoup de nutriments, on le sait, hein, dans les légumes et fruits modernes, on a non seulement perdu des nutriments, mais on a perdu du goût, on a perdu de la diversité. On n'a plus notamment cette amertume qui est si importante pour le système digestif, ça n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais on a énormément perdu au fur et à mesure de la sélection variétale et de l'accaparation par certaines firmes de la semence, hein, en quelque sorte. Donc ici, on essaye non seulement de ramener des variétés anciennes, d'apporter de la diversité au niveau gustatif, au niveau nutritionnel, ça j'y tiens beaucoup, et au niveau esthétique, bien sûr. Alors on n'est plus dans les affres du début, vous savez, au début, on aime tout, on veut tout faire, donc on a un peu un effet catalogue, on a des centaines et des centaines de variétés. On n'est plus dans cette logique-là, on est dans une logique un peu plus économique, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qui plaît aux clients, mais en même temps, qu'est-ce qui va être bon pour eux, qu'est-ce qui va être bon pour leur santé, qu'est-ce qui va les nourrir correctement. Et ça, moi, c'était ma porte d'entrée, hein, pour cultiver de cette façon. Comment nourrir l'être humain de façon décente, et même comment améliorer sa santé avec ce qu'on va pouvoir produire dans des conditions environnemental irréprochable.
Alors, on continue à se promener dans cette ferme du Bec-et-Loing. On est sorti de la serre. Il y a beaucoup d'arbres fruitiers. Et d'ailleurs, lorsqu'on évoquait vos clients, Charles, vous avez beaucoup travaillé avec de grands restaurateurs qui venaient se servir ici et qui utilisaient donc vos fruits, vos légumes pour fabriquer cette cuisine qui est une cuisine gastronomique.
Oui, on a beaucoup appris en travaillant avec des chefs étoilés. C'était une sorte de petit laboratoire recherche et développement pour nous parce qu'il fallait satisfaire leurs exigences qui étaient maximales. Maintenant, on vend plutôt à la ferme en direct. Mais ce qui nous plaît, c'est que tous ces retours de grands chefs ont attesté d'une qualité relativement exceptionnelle de fruits et de légumes poussant de manière extrêmement naturelle. C'est-à-dire que imiter la nature, aller dans le sens du vivant, nous permet de produire beaucoup, mais également d'atteindre une excellence gustative et sanitaire.
Bon, alors, il y a une tradition dans la cuisine française qui est une tradition de travail du légume. Il y a par exemple Alain Passard, le chef de l'Arpège. Alors là, je ne peux plus avancer parce que le chien bloque le passage. Itchy est au milieu et donc il refuse de me laisser avancer. Si, ça y est, le chien a daigné et me laisser passer. Donc j'évoquais cette tradition de cultiver et également de cuisiner les légumes, les fruits. Que vous a appris, que vous ont appris ces différents chefs? Vous avez travaillé également avec Ducasse.
Alors oui, on a vraiment beaucoup appris avec les chefs. Ils nous ont appris notamment à être fiers de nos produits. C'est pas rien, mais le manque de reconnaissance que l'on peut avoir dans ce métier est quelque chose d'assez terrible parce que c'est déjà un métier fort difficile. Et si en plus après on n'a pas de retour sur les produits, etc., c'est pas toujours évident. Donc il y a cette reconnaissance première, mais surtout, j'allais dire, ils nous ont appris à profiter de tout l'environnement. Chaque plante, chaque petite fleur sur lesquelles ils s'arrêtaient, ils nous disaient, oh, mais qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est puissant. Et nous, à l'époque, on ne voyait que le truc qui était mangé par la limace. Donc, cette diversité gustative, cette diversité de d'odeurs, de goûts, de puissance, hein, des végétaux, de puissance nutritionnelle, c'est eux qui nous l'ont mis en exergue, en fait.
Y compris d'ailleurs d'utiliser les fleurs dans la cuisine.
Absolument. Ici, au Bec-et-Loing, on commercialise des centaines de végétaux différents, y compris des fleurs comestibles et des plantes sauvages. En ce moment, on a une merveilleuse floraison des sureaux. Fabien, notre chef, fait des délicieux biscuits avec. Donc, on commercialise tout un tas de végétaux qui sont là à l'état naturel. Et ce qui permet d'avoir une petite ferme, un petit territoire, mais une équipe relativement nombreuse et une sorte d'orfèvrerie du travail pour valoriser les merveilles que nous offre notre mère, la Terre.
Et François Léger, vous qui êtes agronome, il y a une forme en fait d'écosystème qui a été créé de toutes pièces ici, puisque comme je l'ai dit, ce fond de vallée était un fond de vallée très peu fertile et donc très peu utilisé pour la culture. Aujourd'hui, on constate que ces plantes, ces légumes, ces fruits vivent fort bien les uns à côté des autres.
Oui, ce qui est très agréable ici, c'est que, enfin, pour moi, ça a été de suivre l'évolution au cours du temps de ce qui s'y est fait. Et c'est vrai que ce qui est frappant, c'est d'arriver à avoir une telle variété sur une surface aussi réduite, et que cette variété, finalement, donne chaque année après année, la preuve que ces interrelations entre plantes vont permettre d'avoir un système toujours plus productif et plus varié, y compris pour notre alimentation. Et cette question de la capacité à fournir une alimentation variée est, à mon avis, un des enjeux absolument essentiels actuellement, dans un siècle où la question du lien entre environnement, santé, alimentation devient de plus en plus prégnante.
Mais alors, il y a une question malgré tout qui se pose, c'est celle de la productivité des aliments. Cette fois-ci, je parle pas de la productivité de la terre. On considère que dans les cultures maraîchères, comme celle-ci apporte bien souvent peu de calories, eh bien, il y a un problème, c'est que si on veut nourrir la totalité des humains, il faut utiliser des cultures qui sont particulièrement fortes en calories. Alors je sais qu'il y a des châtaigniers qui ont été plantés, vous faites aussi un peu de pommes de terre, mais pour le reste, Perrine?
Alors je crois que c'est pas la calorie la clé, c'est la diversité et l'aspect complet du régime alimentaire. On peut tout à fait trouver dans la protéine végétale des choses intéressantes qui ne sont pas de la même nature et pas aussi bien assimilables que la la protéine d'origine animale, certes, mais on peut tout à fait revenir à une alimentation beaucoup plus proche de ce que l'on va pouvoir faire pousser, en s'éloignant de ce qu'on appelle l'agro-industrie, hein, et avec des résultats à la clé tout à fait intéressants pour la santé, pour le bien-être. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en train en France de faire un peu une révolution. Alors ça passe par tous les scandales alimentaires qu'il y a pu y avoir, ça passe par ces vagues de végétarisme, végétalisme. Je pense qu'on est au début d'une révolution alimentaire qui cherche un petit peu son chemin. Alors on va un petit peu dans les extrêmes, comme souvent quand il y a un changement, mais on a pris conscience enfin de la richesse de la gastronomie française, mais aussi de la richesse de tout ce qu'on est capable de produire et donc que l'on peut agrémenter pour avoir une alimentation la plus saine et la plus équilibrée possible.
Alors dans cette réflexion agricole en cours, il y a bien entendu la question de la viande, ça je n'y reviens pas parce que au bec et loin ça n'est pas un point fondamental. Et il y a la question des céréales, on entend dire de plus en plus, Charles, qu'il y a trop de céréales dans nos alimentations.
C'est clair que la manière dont on se nourrit impacte fortement la planète. Hein. J'entendais dans votre journal tout à l'heure que l'agriculture mondiale pèse pour 20% dans le changement climatique. Et nous, on cherche absolument des solutions pour produire une nourriture abondante et de qualité sans pétrole. Donc quelque part, notre grande obsession, c'est comment est-ce qu'on va nourrir nos enfants, les vôtres et les générations à venir. Donc ici, au-delà de notre métier premier qui est d'être maraîcher, on est également arboriculteur, on a également des animaux, on cultive des céréales sans pétrole. On cherche des solutions pour imaginer une sorte de paysage comestible global qui soit capable de fonctionner même en cas de choc pétrolier, même en cas de grande crise énergétique. On souhaite continuer à nourrir la communauté locale. Et ce qui fait que notre ferme atteint une sorte de résilience, de capacité à réagir à la fois aux aléas climatiques et aux aléas économiques ou énergétiques qui pourraient affecter notre société. Et je crois que quelque part, même si notre modèle est balbutiant, il peut préfigurer de nouvelles formes d'agriculture, d'écoculture, c'est-à-dire une agriculture qui s'inspire de la nature et qui est réellement durable.
Et vous avez planté beaucoup de fruits à coque, par exemple?
Oui, parce que les noisettes, les châtaignes sont absolument excellents pour la santé humaine, très riches en protéines notamment et en oléagineux en huile de qualité. Et en même temps, un hectare de châtaignier produit autant de protéines végétales qu'un hectare de blé, mais sa culture est infiniment moins impactante pour la planète. Donc il est certain qu'on gagnerait à manger moins de céréales, moins de viande et peut-être davantage de fruits à coque.
Moins mais mieux. En fait, je crois que la qualité est à chercher dans tout ce qu'on fait. Et nous, ici, nous mangeons de la viande, hein. Nous élevons des animaux. Et ça n'est pas un tabou pour nous. Simplement, c'est fait dans des conditions absolument surveillées et idéales, j'allais dire, à la fois pour les humains et pour les animaux. Donc, il y a un respect essentiel de chacune des choses que l'on va produire et chacune des choses que l'on va faire, que l'on va mettre en place sur le système. Et si tous les êtres humains réfléchissaient ainsi par rapport à leur alimentation, notamment, je crois que les choses se passeraient différemment et le rapport du consommateur aux produits consommés serait aussi très 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 différent.
Alors on est dans ce lieu, donc toujours bien entendu dans la ferme du Bec et Loin. On a visité tout d'abord vos cultures en butte sur ce que vous appelez l'île Jardin, puisqu'elle est entourée du Bec qui serpente autour de ce terrain. On a vu une serre et puis là on est dans une forêt. Forêt, c'est un terme d'ailleurs un peu excessif pour une surface qui est quand même assez restreinte, mais c'est une surface qui est dotée de vertus particulières. Lesquelles, Charles ?
On est dans une petite forêt-jardin. Alors, comme les buttes de culture, le système de forêt-jardin était inconnu dans l'agriculture occidentale. Il nous vient des régions tropicales du globe. Et c'est un système qui repose sur une imitation de la forêt, sauf que tous les végétaux sont comestibles. Donc on a une strate, la canopée est faite d'arbres fruitiers. On a un étage intermédiaire, pour faire simple, de buissons, de plantes à baies. Et au sol poussent toutes sortes de plantes aromatiques, d'oseilles, etc. Donc on a un système étagé qui ne nécessite pas de travail du sol, pas d'arrosage, pas d'intrants ni de fertilisants, et qui est extrêmement productif. Donc on a un système qui est à la fois plus naturel et très productif. Et cette petite forêt-jardin a été créée pour tester sa viabilité économique, sa performance économique. Donc on l'étudie depuis 4 ans, c'est-à-dire que tout ce qui rentre et tout ce qui sort est quantifié. Et on est surpris du niveau d'efficacité économique d'un système comme ça, qui est qui est un puits de carbone, qui est une oasis de biodiversité et qui produit une abondance de bonnes choses.
Qu'est-ce que j'ai autour de moi là, Charles ? Décrivez-moi.
Alors, on a un cerisier sur lequel grimpe une mûre grimpante, une mûre géante, qui est chargée de fleurs en ce moment. Au sol, on a des rhubarbes avec de la consoude qui est valorisée également. Là, on a des groseilliers et des cassissiers greffés sur tiges. En dessous, on a ici de la roquette, là de la mélisse, là-bas de l'hélichryse, de l'artémisia, de la menthe, etc. Ce qui fait que ce système un peu fouillis et exubérant nous offre une abondance de produits et on n'a guère que la peine de les récolter, en fait.
Et alors, on imagine qu'il faut bosser énormément dans ce type d'exploitation, c'est-à-dire que le fait de ne pas utiliser des produits chimiques est compensé par un travail humain important et tout est pensé dans la manière dont les choses sont plantées ici, Perrine.
Oui, tout est réfléchi, mais c'est ça qui rend les choses amusantes, en réalité. C'est de, au quotidien, d'observer le système, d'analyser, de regarder ce qu'on peut mettre en place, comment on peut intervenir, et surtout, comment on peut ne pas intervenir. À quel moment est-ce que l'interaction entre l'homme et le système, l'homme et la plante, est vraiment nécessaire, finalement? Alors, il s'agit pas de tout laisser pousser, de se dire la nature est généreuse et on va récolter. Non, on récolterait guère que des orties, ce qui est pas mal pour la santé, mais faut pas trop en manger non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un métier qui demande une interaction totale avec le système. On se balade dans les jardins au quotidien, on y travaille, on l'observe, on fait corps avec lui d'une certaine façon. Donc c'est une appréhension complètement différente d'un métier d'agriculteur que l'on connaît aujourd'hui, hein, en haut de son tracteur, avec la motorisation qui a finalement coupé ce lien.
François Léger, le point de vue de l'agronome sur cette forêt-jardin qui nous entoure.
Bon, c'est un lieu un petit peu évidemment particulier qui ne ressemble pas tellement aux champs auxquels les agronomes sont habitués. Là, on l'a dit, l'intérêt, c'est la diversité des productions, l'étagement des productions qui permet de les maximiser. Quant au travail, la question du travail, en fait, faut pas croire que en agriculture industrielle, on ne travaille pas. Les quantités de travail investies individuelles pour conduire un tracteur ou pour sont très très importantes. Et ce qui est assez intéressant ici dans les études que nous avons faites, c'est de nous rendre compte que la quantité globale de travail par, on va dire, euro de plus-value dégagée est finalement beaucoup plus faible que dans des systèmes très mécanisés paradoxalement. C'est-à-dire que la mécanisation exige la taille exige plus de mécanisation, qui exige plus de taille, et finalement les gens se tuent au travail sur des fermes trop grandes pour eux. Ici, l'idée de faire à la surface qu'on peut maîtriser a été absolument essentielle. Et c'est une tendance qu'on voit se développer, y compris chez des producteurs aujourd'hui de céréales ou de viande, de lait, etc. Et donc cette idée du pas seulement small is beautiful, mais ce que je peux faire et l'unité sur laquelle je dois me baser est devenue quand même une règle qui va s'imposant et qui impose un autre regard sur la façon de faire de l'agriculture.
Et alors, pour ceux qui aimeraient se lancer dans ce type d'agriculture, de permaculture, qu'est-ce qu'il faut ? Quels sont les conseils que vous pourriez leur donner, Perrine ?
Tout d'abord, se tester. Ça, c'est une évidence. C'est un métier difficile, on l'a dit, mais il faut se tester physiquement. Il faut se tester, savoir si vraiment cette passion est bien chevillée au corps, parce qu'il faut par tout temps, bien évidemment, être dehors, chausser les bottes, travailler les mains dans la terre. Donc ça, c'est une évidence. Il faut au moins une année de pratique. Nous, on le répète hein, systématiquement à nos stagiaires, une année complète de pratique, voir toutes les saisons défiler pour savoir si vraiment on est capable de faire, parce que la gestion de l'interaction entre les saisons n'est pas si évidente que ça. Il y a un petit peu de technicité. Et puis, il faut avoir la patience et l'humilité de se dire qu'on apprend au fur et à mesure et on apprend au rythme de la nature. Dans notre société, on est toujours très pressé entre les mails, les téléphones, les SMS, etc. Tout va très vite. Quand on travaille avec la nature, on est obligé de revenir au pas de temps de la nature. Et ça, c'est une grande leçon d'humilité à laquelle beaucoup d'entre nous ne sommes pas habitués. Donc, il faut avoir ce regard neuf, ce regard d'enfant et de se dire, je vais aborder ce métier comme si j'étais vierge par rapport à tout ça. Et c'est un renouveau vers lequel beaucoup veulent aller, mais il faut bien se préparer pour pouvoir y aller sérieusement.
Un conseil à donner à tous ceux qui voudraient se lancer à votre suite, à la suite donc de cette exploitation de la ferme du Bec-et-Loing où nous sommes, Charles-Hervé Gruyer.
Eh bien, je pense beaucoup se former et c'est une ferme qui est très low-tech, c'est-à-dire il y a très peu de technologie, ce sont des outils manuels et simples, donc on n'a pas besoin d'avoir des connaissances en mécanique. Par contre, il faut apprendre à connaître la nature, à comprendre son fonctionnement. C'est pour ça que dans notre bouquin « Vivre avec la Terre », il y a toute une partie à l'école de la nature. Donc, quelque part, apprendre ces choses passionnantes et fascinantes, comment fonctionne un écosystème, comment fonctionne un végétal, et comprendre ces interactions entre tous les éléments qui forment un écosystème. Ce qui fait qu'on en apprend tous les jours, et c'est une invitation à la gratitude et à l'émerveillement constante.
Charles et Perrine Hervé Gruyer, vous avez donc publié « Vivre avec la Terre » aux éditions Actes Sud pour raconter votre expérience au Bec et Loin. François Léger, vous êtes ingénieur agronome, vous avez beaucoup travaillé sur la spécificité de l'exploitation où nous sommes.